C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London time, the station with kicks on 266.
Le 14 août 1967, à 15h, Radio London a cessé ses émissions. À minuit, c'est Radio Scotland et 270 qui ont quitté les ondes. Quelques jours plus tôt, Radio 390, 227 et 355 avaient aussi éteint leurs émetteurs. Les ondes moyennes britanniques sont redevenues presque silencieuses. Presque, car comme l'avait promis Ron en O'Reilly, Radio Caroline ne s'est pas arrêtée. Le gouvernement travailliste a-t-il réussi à faire taire définitivement les radios offshore? Combien de temps Radio Caroline pourra-t-elle défier la loi? Va-t-elle résister en solitaire ou suscitera-t-elle d'autres vocations comme lors de sa naissance?
A lot of people ask me why I made the decision to stay on Radio Caroline when I was off the ship last week. There's many, many reasons. I was talking quite a lot with disc jockeys who used to be with Caroline and with Radio London Ally that we lost this afternoon at 3 o'clock. And they were sort of asking me why I was going to stay and that I was wrecking my future career by staying with Caroline. But without in any way trying to be a martyr for free radio, trying to present myself as a brave or courageous person, because I know there are hundreds if not thousands of boys or men or whatever you like of my age who would give anything to be in the seat I'm sitting in right now. I know this. But if I can try and make a distinction between disc jockeys who have left Radio Caroline and myself, I think the best way of putting it would be to say that they were more concerned with their future, that's their own future, than your future and commercial radio's future. I don't blame them in any way at all for leaving Caroline. They want a comfortable life and they want enough money to live comfortably. But I myself, without trying to blow my trumpet or be big-headed in any way, just feel inside that Johnny Walker's not so important and can never be so important as all the people who live in England and all the people who listen to Caroline. And I'm staying on for myself and for them.
Le contexte a changé par rapport au début de Radio Caroline le 28 mars 1964. À l'époque, il n'existait pas de loi et pendant plus de 3 ans, les radios offshore ont pu prospérer librement en Grande-Bretagne, favorisées par l'inertie politique. Il est intéressant de noter que le gouvernement anglais a su de son côté rester dans la légalité. Il n'y a par exemple jamais eu d'emploi de la force. Il y a bien eu quelques tentatives d'intimidation dans les premières semaines, mais elles ont cessé assez vite. Le brouillage n'a pas non plus été employé contre les émetteurs. Toutes les radios avaient des bureaux à terre et ces adresses n'ont jamais été visitées ou surveillées. Mais en ce 15 août, les choses ont radicalement changé. Et l'on peut retenir 2 choses dans l'intervention du DJ Johnny Walker prononcée vers 23h, une heure avant l'entrée en vigueur de la loi. D'une part, il souligne la différence qui existe maintenant entre les DJ qui ont choisi d'arrêter et ceux qui, comme lui, continuent et qui se mettent donc hors la loi. Ensuite, il en appelle aux auditeurs. En effet, si Radio Caroline était en 1964 une radio qui apportait simplement un programme nouveau et indisponible ailleurs, la station veut maintenant être la porte-parole d'un public qu'elle suppose frustré par les conséquences de la loi contre les radios offshore. Le discours est devenu politique. D'ailleurs, à minuit, c'est au Premier ministre Harold Wilson que vont les premiers mots de Johnny Walker après avoir joué le fameux classique « We shall overcome »,« Nous vaincrons », hymne qui fut associé à la lutte pour l'égalité des droits civiques aux États-Unis. Ce moment est sans doute aussi important dans l'histoire de la station et dans l'histoire des radios offshore en général que la première émission du 28 mars 1964.
This is your radio station. This is Radio Caroline. It is now 12 midnight.
Ah!
Radio Caroline would like to extend its thanks to Mr. Harold Wilson and his Labour government for at last, after over 3.5 years of broadcasting, recognizing this station's legality, its right to be here, its right to be broadcasting to Great Britain and the continent, its right to give the music and service to the peoples of Europe, which we have been doing since Easter Sunday 1964. And we in turn recognize your right as our listener to have freedom of choice in your radio entertainment, and of course that Radio Caroline belongs to you. It is your radio station, even though it costs you nothing. And as we enter this new phase in our broadcasting history, you naturally have our assurance that we intend to stay on the air because we belong to you and we love you. Caroline continues.
Plus tôt dans la soirée, les DJ avaient appelé les auditeurs à se rendre en voiture sur la côte et à éclairer le large en direction du bateau à partir de minuit. Depuis le MV Miami Go, tout en tenant l'antenne et en affirmant que Radio Caroline appartient à ses auditeurs et que ce seul fait la rend légale, Johnny Walker et Robbie Dale observent la côte. Ils y voient sur plusieurs kilomètres une ligne ininterrompue de phares de voitures dirigés vers le bateau, entré en résistance.
I want you to remember something, that is a station that belongs to you and is right, cannot ever be taken away from you. And there are a lot of people along the coast tonight who are flashing their headlamps at us. Very, very nice to see you. You made us more happy, and I couldn't think it was possible, but you have made us more happy than we are already. Dale, what are you doing there?
I'm looking out the porthole window. It really is amazing to see all those cars out there and to know that we're not alone in this our most important moment. It's tremendous.
Of course we're not alone, you
I've just been outside and all the, you know, the lights are flashing across the water and it really is a tremendous sight to see. It really is.
Now is the time to raise your glass for Caroline, to hold hands with the one you love, and we shall have a loving together.
À bord, hormis les marins de nationalité hollandaise, il ne reste que 3 DJ britanniques. Le reste de l'équipe n'a pas voulu risquer de s'exposer à des poursuites judiciaires pouvant aller de 400 livres d'amende à 2 ans de prison. La station aux deux navires n'a pas tardé à appeler ses auditeurs à voter pour le parti conservateur dès les prochaines élections. Elle les incite aussi à se rendre dans le poste de police le plus proche pour se déclarer auditeur d'une radio offshore. Ronan O'Reilly répète qu'il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que l'ONU, car selon lui, la loi est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certains prédisent déjà que la station, rebaptisée Caroline International, n'a aucun avenir du fait qu'elle est désormais théoriquement privée de revenus publicitaires émanant des annonceurs basés à l'intérieur du territoire britannique. Dès le 15 août, on note une différence frappante à l'écoute des programmes Nord et Sud. Alors que Caroline North continue à diffuser des publicités régulièrement, elles sont devenues beaucoup plus rares sur le programme Sud. Toutes les heures, on peut encore entendre une annonce pour Bulova Watch, un client historique de la station.
This is your number one, Caroline.
Hi, this is Connie Francis, and this is the fun spot on your radio.
Radio Caroline South on 259 meters and the medium wave band, where the time is exactly 10 o'clock. That's Bulova Watch time. B-U-L-O-V-A, Bulova. When you know what makes the watch tick, then you'll buy Bulova. Spencer Davis. I do believe that this is going to be a ginormous sound. On Fontana, Time Salah.
On relève aussi que les DJ mentionnent régulièrement le nom des maisons de disques associées aux titres joués à l'antenne. Il faut rappeler que les sociétés de production musicale sont, comme toutes les autres entreprises, désormais soumises à l'interdiction de relations avec une radio offshore. À 16h50, le 15 août, sur l'antenne de Caroline South, dans l'émission de Ross Brown, on peut entendre une séquence consacrée au nouvel album de Georgie Fame, séquence qui n'a clairement rien à voir avec une chronique.
Ladies and gentlemen, fame has two faces. Now they're both seen and heard in 67 on CBS. The two faces of fame, Georgie's new LP on CBS, bringing together for the first time on one LP, Georgie Fame, backed in one bag by the Georgie Fame Band. In the other, by the Harry South Big Band. Two faces of fame, both of them full of the great sounds that have made the music scene as good as it is today. Sounds like this, recorded live at the Royal Festival Hall this year.
Le 16 août, le Times fait un long compte-rendu des publicités entendues principalement sur Caroline North. Nous serons probablement tous en prison demain, déclare un directeur catastrophé. Des entreprises désavouent les publicités de Radio Caroline. L'inquiétude et le découragement se sont répandus parmi les hommes d'affaires londoniens et étrangers hier, lorsque plusieurs entreprises ont été informées par le Times que des publicités à leur nom avaient été diffusées sur Radio Caroline, exposant ainsi leurs dirigeants à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois, ou à une amende ne dépassant pas 400 livres. La plupart ont répondu avec indignation que ces publicités n'avaient pas été autorisées. Le cas le plus grave concernait Bulova Watch, l'un des premiers et des plus fidèles annonceurs de Caroline. Les produits Bulova ont été annoncés à plusieurs reprises sur Caroline North et South hier. Mais M. Anthony Rachel, directeur de la publicité de Bulova en Grande-Bretagne, a déclaré n'avoir rien su de ces publicités. Il a précisé que l'entreprise avait annulé ses contrats avec Caroline il y a environ 3 semaines et qu'il demanderait un avis juridique au sujet de cette diffusion. Les publicités n'avaient certainement pas été placées depuis des bureaux à l'étranger. Radio Caroline North a diffusé une publicité pour Coca-Cola à 11h30. Plus tard, M. Peter Curtis, représentant Erwin Wasey, l'agence de publicité britannique de Coca-Cola, a déclaré que cette publicité n'avait pas été placée par eux et qu'elle n'aurait pas été réservée par la société mère américaine de l'entreprise. Nous n'avons pas fait appel à des pirates pour des raisons de politique. Radio Caroline North a également diffusé une publicité pour les lames de rasoir chic. Monsieur Jay Valentine, co-directeur général de Garland Compton, agence publicitaire de chic en Grande-Bretagne, a déclaré qu'aucune publicité de ce type n'avait été diffusée. Leurs clients les avaient informés depuis Bruxelles qu'ils ne l'avaient pas fait non plus. Monsieur Valentine a déclaré que l'agence enquêterait sur l'affaire. Monsieur Leslie Clark, directeur du Futurist Theatre de Scarborough, dont le spectacle actuel avec le groupe Bachelors était annoncé sur Caroline North tôt hier, a déclaré que la publicité avait peut-être été diffusée par la société qui présente l'émission, PP Music Limited, dirigée par M. Philippe Solomon, ancien directeur de la société de vente de Radio Caroline. M. Clark s'est dit alarmé par la nouvelle de la diffusion du spot publicitaire sur Caroline North et qu'il en parlerait immédiatement à son directeur général. « Nous serons probablement tous en prison demain. » Interrogé sur la possibilité d'une publicité sur Caroline North hier, le directeur d'une agence immobilière de Birkenhead a déclaré « Nous n'avons rien à dire tant que nous n'aurons pas consulté un avocat. » Je ne paierai pas. Parmi les annonceurs qui ont cessé de diffuser, nombreux sont ceux qui ont déclaré avoir été contraints de quitter l'antenne à contre-cœur. Monsieur James Gardner a diffusé des spots publicitaires. Il a toutefois déclaré regretter profondément d'avoir dû le faire, estimant que la publicité de Caroline avait très bien marché. Si c'était légal, je referais de la publicité demain, a-t-il ajouté. C'est un très bon service, il vaut largement son prix.
It's Breakthrough Night at the Marquee Club. You can break through with Breakthrough on the 20th of August at the Marquee Club in London's West End. Appearing on this great night will be the Scatolites, the Open Mind, and also the Sin. So rush for your ticket to Breakthrough by sending a postal order for 8 and 6 if you're a non-member, and 6 shillings if you are a member of the Marquee Club, to Breakthrough, the Marquee, Wardour Street, London, W1. Have you got that address now? It's 8 and 6 if you're a non-member, and 6 shillings if you are a member, to Breakthrough, the Marquee Club, Wardour Street, London, W1.
Okay, let's take it up from where we left it. This is the new track coming up from the new Vaudeville band, and it's on the countdown. It's called Green Street Green.
La différence dans le nombre de publicités diffusées sur les deux programmes tient au fait que le MV Caroline, stationné au large de l'île de Man, bénéficie d'un petit sursis. En effet, comme le Parlement manois a refusé d'appliquer la loi britannique, le gouvernement de Londres a été obligé de rédiger un décret pour forcer le Tynwald. Mais ce décret n'entrera en vigueur que le 31 août. Au regard de la loi, il n'est donc pas encore illégal d'entretenir des liens avec Caroline North et son navire. Les annonceurs ont-ils profité de cette situation ? Les radios offshore totalisaient plus de 20 millions d'auditeurs quotidiens et toutes les stations ont disparu d'un seul coup, sauf une. On peut imaginer qu'il serait assez tentant de saisir cette opportunité pour continuer à faire de la publicité. Le 17 août, le General Post Office publie un communiqué affirmant qu'un certain nombre d'entreprises concernées ont pu prouver documents à l'appui qu'elles n'avaient plus de lien avec Radio Caroline. Mais ce communiqué ne fait aucune différence entre le programme Nord et Sud. Le gouvernement anglais a tout intérêt à marginaliser la pionnière des radios offshore, car le programme qui doit s'y substituer n'a pas encore démarré, et l'on ne sait pas s'il va parvenir à séduire le public et à faire oublier les stations maritimes.
Yeah, a little bit Petula Clark there was in the record by the title of I Know a Place, and he's back again, just right, just the two faces of Tea House and then the big high out there, and how we hope you're all right, because your TJ is really, yeah, you're really swinging anyway. We hope we're going to survive, and we're going to survive for many years to come. So keep listening to your number one station in the nation, Radio Caroline. That's your number one station. You know that, folks, don't you? Yeah, of course.
I love you, I love you, I love you.
I love you.
I love you, I love you, I love you. I love you.
Yeah.
I love Caroline. And now, my dear, I'm waiting to hear three words that'll make you mine.
I love Caroline.
That'll make you mine.
I love Caroline.
That'll make you mine.
This is Radio Caroline.
It's a rave, folks. Yes, I tell you, this is your DJ D. Harrison, taking right up the hour of 9 o'clock on a little happening we're going to call the Go-Go Show. Okay, this is DD on the Go-Go Show. Mr. Scott McKenzie for you now with our number one sound around.
You're going to San Francisco.
Du fait que le Marine Broadcasting Offense Act n'est pas encore en vigueur sur l'île de Man, le MV Caroline peut encore recevoir des approvisionnements depuis l'île. Et les DJ peuvent se déplacer librement. Au nord comme au sud, si des DJ préfèrent la légalité, d'autres choisissent d'entrer en résistance. C'est le cas pour Martin Kane, Mark Sloan ou Dee Harrison qui rejoignent le MV Caroline. Le Parlement de l'île de Man semble toujours vouloir engager un bras de fer contre le gouvernement britannique. Le 17 août, Charles Kerridge, président de la Chambre des représentants, a déclaré, après une visite à Londres, que l'île allait se diriger vers un statut d'associé au Royaume-Uni. Premier pas vers une possible indépendance. Monsieur Kerwish a ajouté que les relations avec Londres n'avaient jamais été aussi mauvaises et que même en temps de guerre, le gouvernement britannique ne s'était jamais comporté de la sorte. Les tensions entre l'île et la capitale sont prises très au sérieux, car le ministère de l'Intérieur a confirmé dans la foulée une prochaine visite de sa représentante sur l'île.
Back in time on the sounds of the nation, it's the Caroline flashback, flashback, flashback. And it's those Hollies from Manchester with a record called If I Needed Someone. Hope you're enjoying the Go-Go Show.
Les navires des autres radios offshore disparus ont tous quitté leur emplacement d'origine. Dès le 15 août, l'Ocean 7, qu'utilisait Radio 270, fit route vers Whitby. Il avait été mis en vente quelques jours avant, mais faute d'acheteur, il resta à quai pendant de nombreux mois. Le Comet de Radio Scotland fut remorqué dans le port de Dunbar le 17 août, mais il ne trouva pas non plus d'acquéreur. Le Galaxy de Radio London leva l'ancre le 19 août et prit la direction du port de Hambourg. L'énorme bâtiment de 780 tonnes sera pressenti pour héberger une nouvelle radio offshore en 1969. Mais les procédures judiciaires autour de sa propriété y feront obstacle. Le 24 août, Caroline North reçut la visite d'un député travailliste de Liverpool, James Dunn. Interviewé par Don Allen, il expliqua que sa visite avait pour but de remercier Radio Caroline pour avoir fait la promotion de l'association caritative dont il est le fondateur. Au cours de l'échange, il déclara à propos du Marine Broadcasting Offense Act « J'ai personnellement mes propres opinions, mais le gouvernement a décidé et je dois les suivre. Je regrette sincèrement que cela se soit produit. C'est vraiment dommage. » Une autre anecdote mérite aussi d'être racontée. Durant cette période, un match de football à but caritatif a opposé à Blackpool une équipe de Caroline North à une équipe du GPO, le General Post Office, l'organisme précisément chargé de mettre en application la loi anti-radio offshore. Les deux stations continuent à diffuser des publicités, mais les entreprises concernées clament qu'elles ne les ont pas payées et qu'elles sont diffusées sans leur accord. En fait, la stratégie de Caroline consisterait visiblement à diffuser effectivement un certain nombre d'annonces non rémunérées afin de créer une confusion et de rendre impossible la traçabilité des spots qui sont réellement rémunérateurs. Mais il y a aussi le fait que la station avait parfois conclu des contrats sur le long terme avec certains annonceurs et qu'elle met donc un point d'honneur à les respecter. C'était le cas, par exemple, pour la société Vedder Battery, qui avait signé un contrat pour 3 mois en juin 67 sur les antennes de Radio London et Caroline. C'est également le cas pour l'annonceur Derek Gardner Photographic, dont voici un spot diffusé sur Caroline South.
Thinking of a new camera? Well, then write, phone or call Derek Gardner Limited, Church Street, Leatherhead. Leatherhead 3398. For the best stock in the South and the greatest choice of photo equipment, call in at Leatherhead. There's a complete window devoted to second-hand equipment, and the highest prices are allowed in part exchange. Reasonable credit terms available. Remember, for expert advice, personal service, and the best value, call at Derek Gardner Limited, 30 Church Street, Leatherhead. Phone Leatherhead 3398.
18 minutes to 4 o'clock in the afternoon on the afternoon show with Ross W. Brown. RWB, you know, let's make it all cozy. You don't have to remember much then. I'm just RWB there. Hi there. Great to...
La station va aussi trouver des ressources en augmentant la diffusion des programmes religieux issus d'organisations américaines. Enfin, le catalogue des artistes Major Minor Records de Philippe Solomon, qui comporte un grand nombre de disques de folk irlandais très peu connus, va aussi bénéficier d'une très large diffusion sur les deux programmes, à l'évidence rémunérés. Parfois jusqu'à 14 titres par heure sans que les DJ n'aient le droit d'y intercaler d'autres disques, ce qui va provoquer un certain ressentiment dans l'équipe. Même sur le programme Nord, qui est pourtant bien reçu en Irlande et qui touche a priori un public plus enclin à apprécier cette musique, cette abondance d'artistes folk régionaux va tourner à la saturation. À bord du Miamigo, le moral des DJ commence à connaître une érosion. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les deux navires voisins, le Galaxy et le Laissez-faire, sont partis. Ensuite, le ravitaillement est beaucoup moins fréquent. Il faut près de 20 heures de mer au ravitailleur pour atteindre le navire depuis la Hollande. Enfin, le courrier des auditeurs si précieux a brusquement totalement disparu. En effet, le siège de Caroline à Londres a été fermé et la nouvelle adresse en Hollande n'a pas été immédiatement communiquée. La station n'a pas totalement quitté la capitale britannique. En réalité, elle est toujours clandestinement présente par le biais de deux sociétés écrans, si l'on peut dire. L'assistante de Philippe Solomon, qui co-dirigea la radio, assure toujours un lien discret avec l'équipe depuis les bureaux de Major Minor Records à New Oxford Street. Des contacts avec certaines maisons de disques et quelques annonceurs transitent sans doute par ce biais. S'agissant de Ronan O'Reilly, il n'est pas citoyen britannique, mais irlandais. Malgré tout, il est surveillé par les autorités. Il a ouvert une société, Mid-Atlantic Film, et s'occupe officiellement désormais de production cinématographique. C'est ce qu'il répond quand on lui pose des questions. Mais il est évident que Mid-Atlantic Film sert aussi de base clandestine à Caroline sur le territoire britannique.
Broadcasting on 259 meters, this is Radio Caroline International. At present, carrying out transmitter testing. We'll be resuming normal programming as soon as possible.
Dans son édition du 26 août, le Billboard révèle que le gouvernement néerlandais s'apprêterait à promulguer une loi similaire au Marine Broadcasting Offence Act et à autoriser simultanément la publicité sur les stations Hilversum 1, 2 et 3. Il n'y a qu'une seule radio maritime en Hollande, la très populaire Radio Veronica. La plus ancienne des radios offshore va-t-elle faire les frais du Marine Broadcasting Offence Act britannique ? L'article révèle en effet que la possible évolution de la loi Hollande est la conséquence d'une pression exercée par le gouvernement anglais pour tenter d'interrompre la nouvelle source d'approvisionnement du Miamigo de Caroline South. Le Daily Mail du 31 août nous apprend que le gouvernement anglais va devoir sortir le chéquier pour certains anciens employés des radios offshore. The Daily Mail, jeudi 31 août 1967. Indemnité de licenciement versée par le gouvernement aux pirates licenciés, par Brian Dean. Le personnel de deux stations de radio pirates a reçu une indemnité de licenciement du gouvernement suite à la fermeture de leur bureau londonien. Les employés de Radio Caroline, licenciés lorsque le siège de la station a été transféré à Amsterdam pour contourner la loi anti-piraterie, ont reçu jusqu'à 3 semaines d'indemnité de licenciement. Le personnel de Raidland Sales, responsable de la publicité sur Radio London, a reçu jusqu'à 2 semaines d'indemnité. Environ 8 des 20 employés de Radio Caroline et 6 des 22 employés de Raidland Sales auraient bénéficié de l'indemnité de licenciement en raison de leur ancienneté. Dans le cadre de ce dispositif, les employeurs versent l'indemnité et en réclament les 2/3 au gouvernement.
A funky Broadway from Wilson Thicket on the Atlantic label. Time on Caroline, 21.5 minutes past 6.
Yuck! Oil on the beach. Be prepared this holiday with new Techna Oil and Tar Remover. Techna shifts oil fast. And Techna gives a much bigger bottle for your money.
Techna, Techna, get extra with Techna.
Yes, you get more for your money with Techna.
Get Techna products at all good decorating shops, including Home Charm. There's a helpful Home Charm wallpaper store near you.
The Monkees. Number 12 in the countdown, Pleasant Valley Sunday.
Le bureau gouvernemental, spécialement créé pour faire appliquer la loi sur les infractions à la radiodiffusion, fit passer des annonces dans près de 70 publications en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, pour rappeler les termes de la loi et les peines juridiques encourues par les contrevenants. Le MV Caroline du programme Nord continua à être alimenté régulièrement par le Offshore 3. Il fit son dernier voyage le 31 août à 20h30 pour apporter le dernier ravitaillement en provenance de l'île. La police scruta attentivement ce dernier voyage et prévint les commerçants de Ramsey que désormais, ils se mettraient hors la loi s'ils fournissaient des marchandises aux navires radio. Ronan O'Reilly était présent. Il admit que la publicité était en baisse, mais affirma que des annonceurs internationaux allaient bientôt prendre le relais. Plus tard dans la soirée, une croisière entre Douglas et Ramsey avait été organisée par une compagnie locale, l'étape principale étant un passage tout près du MV Caroline. Il y avait près de 2000 personnes à bord du ferry. Le vendredi 1er septembre à 0h, le Marine Broadcasting Offense Act entre en vigueur sur l'île de Man. Mais le bateau de Caroline North passe outre et poursuit ses émissions. Ce jour-là, les programmes ne s'arrêtent pas à 21h comme d'habitude. À minuit, le premier titre joué est l'hymne national manois, comme pour rappeler qu'une partie des parlementaires de l'île se sont opposés à l'hégémonie du Parlement britannique concernant cette loi.
Ladies and gentlemen, it's now 12 midnight on Radio Caroline North. Broadcasting on 259 meters in the medium wave band, you're listening to the continuing voice of free radio for the British Isles, Caroline North, national and international. It now gives us great pleasure to play for you the ninth national anthem, O Land of Our Birth.
Le 4 septembre, la BBC s'offre une belle publicité en affichant ses nouvelles recrues pour le futur programme Radio One dirigé par Robin Scott et qui doit démarrer à la fin du mois. Tony Blackburn, l'empereur Roscoe ou encore Ed Stewart, Kenny Everett ou Mike Raven feront partie de la nouvelle équipe. Tous ont été des stars des radios offshore. Mais pour eux, la subversion appartient au passé. Sur leurs vêtements, ils arborent des badges où l'on peut lire « I'm a Radio One Upman » ou encore « Ring a 247 Ding Radio One ». Ce dernier slogan rappelant clairement la fameuse cloche de Radio Caroline. Robin Scott commente ce choix avec cette phrase d'anthologie « Nous sommes allés chercher des professionnels, un peu comme une entreprise de coffre-fort embauchant un serrurier qui aurait été derrière les barreaux ». Le même jour, probablement pour contrer cette opération de communication de la BBC, l'antenne de Caroline North annonça la tenue du Caroline Swim. Deux DJ, Mark Sloan et Don Hallen, prévoyant de rallier la côte à la nage depuis le MV Caroline, soit 4000 nautiques. Cette annonce déclencha l'intervention des gardes-côtes, car la météo était mauvaise. Le canot de sauvetage Ramsey patrouilla pendant 2 heures autour du bateau émetteur. Les DJ renoncèrent finalement à leur performance. L'un des aspects ambigus de la loi concerne les relations que la presse doit ou non entretenir avec les radios offshore qui continuent à émettre. En effet, si l'on considère les termes de cette loi, à savoir que toute forme de relation entre un citoyen britannique avec une radio offshore est pénalement condamnable, cela s'applique-t-il ou non à l'information ? Si même un journaliste n'a plus le droit d'entrer en relation avec un navire radio dans le cadre d'un sujet d'information, cela s'apparente à une entrave à la liberté de la presse. Ainsi, le 12 septembre, une équipe de Granada Télé travaillant pour l'émission World in Action s'est vue signifier un refus d'accoster dans le port de Felixstowe après qu'il se soit dirigé vers le Miamigo pour filmer la vie à bord dans le cadre d'une émission consacrée à Ronan O'Reilly. Le capitaine du Miamigo crut bon de prévenir les journalistes qu'il risquait peut-être des ennuis. Le producteur de l'émission, Derek Plumwright, suggéra à son équipe de regagner la terre pendant qu'il demandait un avis juridique. C'est à ce moment-là que le chalutier Ross Dunty, qu'utilisait l'équipe de télévision, se vit signifier un refus d'accueil par le port de Felixstowe et dut retourner en mer pour ancrer non loin du Miamigo. Granada Télé publia un communiqué. Nous ne pensons pas que la loi ait jamais été conçue pour empêcher les journalistes ou les caméramen de se rendre dans les stations de radio pirates pour obtenir des informations. Nous ne pensons pas qu'elle puisse être interprétée de cette façon, car cela semblerait contraire au bon sens. Du côté du port de Felixstowe, c'est plutôt l'embarras. Monsieur Edward Hall, son directeur, déclara « Je comprends que nous pourrions bien enfreindre la loi en autorisant l'entrée de ce navire ». Ronan O'Reilly, de son côté, ne manqua pas de commenter l'incident. « Je ne savais pas que la loi sur les infractions maritimes s'étendait à la liberté du journalisme. » Deux jours plus tard, les reporters de Granada Télé firent une nouvelle tentative, mais ne partirent plus de Felixstowe. C'est depuis le port de Great Yarmouth et à bord d'un chalutier battant pavillon néerlandais, le Jacomina, qu'ils rejoignirent le bateau de Caroline South. L'équipe de World in Action parvint finalement à monter à bord et réussit à tourner. Puis leur chalutier reprit la mer pour regagner le port de Flushing en Hollande pendant que le film était discrètement ramené de Rotterdam en Angleterre. L'émission fut diffusée le lundi 25 septembre.
O'Reilly tried everything to prevent the Marine Offences Bill going through. At the Labour Party conference at Brighton last year, he conducted a concentrated lobby for free radio, employing a team of 8 publicists and a mini-skirted girl to catch the ears and eyes of the MPs.
I'm not a criminal. Now, you hear that joint answer? That was unanimous. You know, we are not criminals under any circumstances.
Well, you see, all broadcasting, ultimately, whether it's television and broadcasting, whether it's BBC or ITA, is ultimately and indirectly, and I think it's right that it should be indirect, responsible to the government, to the representative of the government. Now, these people are not. They are a law unto themselves. They are, in fact, pirates. The word is a correct one. They are pirates. They are, in fact, outlaws. And,
C'était les DJ de la haute mer, 19e épisode.
The continued existence of a group of lawbreakers, because if they do, then the law itself ultimately comes into disrepute.